l'idée à que nous travaillions ensemble, d'égal à égal.
On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous, le magazine de la bonne double soirée. Elle commence dès 18h en podcast, avant son passage à l'antenne de 22h à minuit. Oui, c'est comme ça. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Ce soir, l'actu, c'est Où sont les hommes? Deux ans après les débuts de l'affaire Weinstein et l'onde de choc qui a suivi, notamment le mouvement MeToo ou Balance ton porc, au Énervé ce soir, on s'est posé la question, mais où sont les hommes? Où en sont-ils? Comment aujourd'hui penser sa masculinité, sa virilité? Mais pourquoi on y pense aujourd'hui, Benoît Lagan?
Eh bien, en écho à une actualité culturelle très riche dans le domaine, la sortie aujourd'hui d'un documentaire Les Charbons Ardents, réalisé par Hélène Milano, qui est présente ici et qui a filmé un groupe de jeunes hommes, élèves en lycée professionnel, âgés entre 16 et 19 ans. La publication d'un livre intitulé « Les couilles sur la table » est signée Victoire Tuaillon. Elle a adapté son célèbre podcast radio en livre. Nicolas Bonneau, comédien-conteur qui tourne son spectacle « Qui va garder les enfants partout en France ?» et Benjamin Vernet, qu'on a sorti de YouTube, créateur de la chaîne « Vous êtes vraiment sympa » et notamment d'une excellente web-série « Entre mecs ».
Eh bien, merci à tous les quatre. Marion Guilbeault, sur le plan musical, j'imagine que vous avez opté pour la parité. On va parler des hommes. Vous avez donc programmé une femme.
Bah, bien sûr, la nouvelle voix féminine et culottée de la pop française. Elle s'appelle Marie-Flore. Elle est en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole. Ce sera le Énervé la Suite, France Inter Plus de Mur de Berlin avec le discret Monsieur X. Nouveau rendez-vous avec X, l'émission culte de Patrick Pénaud, où l'on retrouve la Stasi. Allez, le Énervé, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Sorti en salle aujourd'hui de votre film Hélène Milano, Les Charbons Ardents, vous filmez 15 jeunes hommes entre 16 et 19 ans, ils grandissent en lycée professionnel et vous les interrogez sur les normes, les codes de la virilité, sur leur place dans la société, le monde du travail, sur les relations entre garçons, mais aussi le rapport aux filles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont corsetés dans des clichés de domination, mais le fait d'en parler leur permet aussi de mesurer la violence de leurs pensées et de leurs discours. Bande annonce.
Je regarde les informations, des fois, on voit que le chômage, il baisse pas.
Je pense qu'on est tous dans le même bateau et à se dire, qu'est-ce qu'on va devenir?
Tous les jours, c'est quoi? Toujours, il y a un nouveau problème et tous les jours, tu fais front à toi-même. Tous les jours.
Commencer sa vie dans un quartier, je pense, tu commences mal ta vie.
Qu'on se prenne des coups, qu'on s'en prenne pas, genre, on devient pas les mêmes personnes.
Les filles du quartier, c'est chaud. Je suis obligé de tout faire en cachette.
Peut-être que je connais son frère, peut-être que je connais son père, peut-être que je connais sa mère. Ça, j'esquive.
Moi, j'aime bien leur compagnie. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont marrantes. Enfin, elles sont comme nous.
Pour moi, c'est un peu de la fierté. C'est de ne pas dévoiler mes sentiments. Je sais pas, c'est...
Parce qu'on a peur de se... un peu de se faire manquer de respect, que les autres se moquent de nous, parce que si, parce que ça.
Un mec, tu le vois avec 5 meufs ou 6 meufs. Et une meuf, tu le vois avec 5 mecs, 6 mecs. C'est pareil. Je vois pas pourquoi on va traiter la fille, on traite pas les garçons.
Après, ouais, ce serait bien que ça change. Pour les filles.
Pas facile d'être un homme aujourd'hui. Hélène Milano, votre précédent film Les Roses Noires. Dans ce précédent film, vous filmiez des filles dans les banlieues. Cette fois, ce sont des garçons, des jeunes, en lycée professionnel, issus des cités. Ça vous permettait d'aborder quel sujet qu'un panel plus large n'aurait pas permis?
En fait, c'est pas tellement la question d'aborder des sujets particuliers. C'est-à-dire que ces jeunes n'ont pas tellement de visibilité et que plutôt que d'être dans une comparaison qui pour moi est un piège, je trouvais beaucoup plus intéressant de leur donner toute la place et qu'on ait vraiment la possibilité d'aller au fond des choses. Et pour moi, je voulais vraiment faire un trajet qui part du social, comment ils se projettent dans leur place sociale et ce qui les attend, parce que le monde du travail
dans
qui
le monde
les
du
attend,
travail, la violence du monde du travail,
il est pas marrant
et ils en sont complètement conscients.
Complètement. Et d'aller ainsi jusqu'à l'intimité et de faire tout ce chemin avec eux. Et comme je tenais aussi, je viens du théâtre moi, à cette forme chorale qui évoquait pour moi les tragédies grecques, etc., tout le travail du cœur, je tenais à cette choralité. Et pour qu'on ait à la fois la sensation d'un cœur, mais aussi de chacun leurs histoires, eh bien je voulais toute la place pour eux. Donc j'ai fait ce choix.
Est-ce que vous avez tous vu le film autour de la table?
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, par exemple, vous?
Mais moi, j'ai démarré beaucoup sur le milieu social, Nicolas en fait, Bonneau. Le milieu ouvrier, le fait que moi, j'étais en seconde où il y avait de la technologie, qu'il y avait des générales. Donc, je me suis beaucoup reconnu dans ça, parce que c'est vrai que je supportais pas d'aller dans le côté technologique. Moi aussi, j'étais dans beaucoup d'a priori comme ça. Et puis, je pense que le fait d'être que entre hommes, c'est très très pénible pour moi. Et puis après, ce qui m'a frappé, c'est cette construction de la virilité qui se fait peu à peu comme une obligation pour acquérir le respect dont il parle.
Ouais, le respect dont il parle, moi, c'est ça. C'est ce mot-là qui m'a particulièrement troublé. C'est cette histoire. Ils ne veulent pas qu'on leur manque de respect. Il faut qu'on les respecte. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour que ce soit aussi important, cette idée de respect? C'est-à-dire, moi, quand j'ai regardé le film, je vais être très honnête, je me suis dit, mais qu'est-ce que leur mère leur a inculqué?
Et leur père?
Leur père! La reproduction, mais leur mère, par exemple, pour qu'ils aient un regard aussi violent sur les filles, qu'ils traitent de putes, qu'ils vont baiser, qu'ils vont faire. Mais qu'est-ce que leur mère leur a appris?
En fait, je pense que c'est pas leur mère. C'est-à-dire qu'il y a un système dans lequel ils grandissent, et ça, c'est la rue. C'est-à-dire, à un moment donné, au moment de l'adolescence, et les codes et les normes sont vraiment apportés par la rue, beaucoup plus que par les parents qui, eux, sont souvent un rappel à une autre forme de respect, qui est un respect mutuel, etc. Mais celui dont ils parlent, c'est celui de la domination, qu'ils doivent affronter et ils doivent construire une sorte de forteresse autour d'eux-mêmes. Et ce mot, ils l'avaient tout le temps à la bouche. Donc je me suis dit, évidemment, c'est dans le film.
Il n'y a pas que la rue, il y a aussi la famille. On sait très bien que, par exemple, dans certaines familles, le fils a un rapport privilégié, a une place privilégiée, que la fille doit rester à la maison. Donc il n'y a pas que la rue présente dans la construction de ces jeunes hommes.
Oui, vous avez raison sur le fait qu'on est des êtres et culturels, et psychologiques, et sociaux, ça c'est sûr. Mais disons que dans ce qu'ils racontent, eux, des enjeux adolescents, c'est plutôt dans cet endroit-là, dans ce moment de leur vie, que c'est fort.
Victoire Tuaillon, vous avez vu le film aussi?
Oui, j'irai plus loin en fait, c'est que c'est pas seulement les modèles parentaux ou la famille, mais c'est aussi toute la culture dans laquelle on baigne. Or, c'est pas une question de classe populaire en fait, je pense que la domination masculine, elle existe dans toutes les classes sociales, seulement elle s'exprime différemment. Vous, ça vous choque parce qu'ils traitent les filles de putes et tout, mais je suis pas sûre que dans les classes sociales supérieures, on y ait naturellement plus de respect pour les femmes, je ne le crois pas en réalité, mais simplement les mots utilisés pour les décrire ou la façon de se comporter avec elles est différente, mais la domination masculine est la même. Elle est véhiculée par la publicité, par la culture, par les chansons, par la littérature, etc. Et donc, en fait, c'est peut-être l'expression qui vous choque, mais en réalité, c'est la même chose à travers les classes sociales.
Benjamin Vernet.
Alors moi, je vais faire gagner du temps parce que je l'ai absolument pas vu.
Ah bah comme ça, au moins, c'est très facile, oui, en effet.
Mais je vais m'empresser d'aller le voir parce que c'est des thématiques qui m'intéressent, évidemment.
Benoît Lagan. Alors à propos de la masculinité, vous souhaitiez commencer le film par montrer, et pendant les 20 premières minutes du film, d'abord on ne parle pas de la masculinité, on parle juste de la classe sociale, du lien au travail. Pourquoi le lien au travail c'est important pour ensuite parler justement du rapport à la masculinité?
Parce que quand les garçons Milano. Disent « ramener le pain », que pour eux c'est important, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir telle conception de la place de l'homme dans la société et en même temps d'être dans une filière où ils sont souvent très insécurisés, donc ils arrivent quand même avec des parcours parfois fracassés, parfois c'est un vrai choix, mais quand même globalement c'est des histoires scolaires compliquées, donc avec une projection sur l'avenir extrêmement anxiogène. Et en même temps, leur représentation de l'homme qui assure, c'est celui qui ramène le pain, donc déjà avec l'argent. Qui est quand même, là je rencontre des garçons...
Il faut faire de l'argent, c'est ce qu'ils disent.
Oui,
hein. L'expression,
mais ils sont
l'argent.
Miroirs grossissants de notre société, c'est-à-dire quelles sont les valeurs aujourd'hui. Eux, ils prennent ça de plein fouet. Il faut avoir de l'argent et quelqu'un... C'est très troublant et fort quand Théodore il parle d'argent. Il parle aussi de la précarité dans laquelle il est. Donc, ils sont avec ces choses-là, ils sont avec ce point de leur parcours et leur représentation est qu'un homme ramène le pain, sécurise sa famille, etc.
Donc il y aura une domination sur la femme, puisque c'est lui qui prend en charge toutes les responsabilités.
Mais
donc
en tout cas,
dès le monde du travail, ça se joue sur les relations qu'ils vont ensuite avoir avec leur femme.
Non, c'est-à-dire que, je pense surtout que ce qu'ils expriment, c'est avec ce monde qui change, avec ce monde insécurisant, où la classe ouvrière, elle est éclatée avec une solitude immense, comment moi, je vais arriver à transformer l'essai pour me sentir un homme digne avec des repères qui changent. Parce que j'ai quand même senti l'envie d'émancipation de ces normes. Et ça, c'était beau de le partager avec eux.
Alors justement, à ce sujet, on écoute un des témoins du film à propos de cette masculinité confrontée à la thématique du travail. C'est un extrait des Charbons Ardents.
Pour moi, je trouve que c'est possible qu'une femme
puisse faire une chose d'un homme, même si je trouve que c'est dur, mais si elle y arrive, tant mieux. Par contre, qu'est-ce qu'il fait l'homme, en fait? Du coup, ça valorise la femme, mais l'homme, ça le rabaisse. Ça fait croire, en fait, que lui, il sert à rien, en fait.
Victor Thurion, vous vous souvenez de cet extrait,
oui,
de ce passage-là,
sûr.
De ce qui se raconte dans cette phrase?
Mais pour moi, c'est assez symptomatique de quelque chose qui est au cœur de la masculinité, c'est-à-dire qu'on accepte que les femmes adoptent des attitudes ou des activités qui sont codées comme masculines, alors qu'en fait, ils n'envisagent pas, par exemple, de faire la même chose que sa femme, c'est-à-dire peut-être que lui pourrait ne pas ramener l'argent à la maison, mais peut-être qu'il pourrait s'occuper des enfants, de la maison, toute activité qui sont codées comme féminines. Or, au cœur de la masculinité, il y a l'idée que être un homme, c'est ne pas être une femme. Et qu'être un homme, c'est surtout être mieux qu'une femme. C'est-à-dire que quand on adopte des activités, des qualités, des attitudes qui sont codées comme féminines, c'est dévalorisant quand on est un garçon.
Et vous pensez que dans d'autres milieux sociaux, vous auriez trouvé le même genre de discours, Hélène Milano?
En fait, il est plus masqué, mais quand on parle de la volonté de maîtrise des émotions, de vouloir être à un certain endroit social, on est effectivement dans des choses très 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 semblables.
Benjamin Vernet, entre mecs, vous pouvez avoir ce type de discussion à partir du travail, justement, comment vous réagissez?
On a clairement ce type de discussion. Je pense à un épisode sur la virilité, où à chaque fois, il y a deux chroniqueurs qui sont toujours là, Omar Mebrouk et puis Antoine Poyard, qui est tatoueur. Et là, on avait Alex Ramirez, et on a parlé énormément d'homosexualité, parce que du coup, Antoine, qui est avec moi dans chaque émission, est homosexuel, et Alex aussi. Donc c'était l'occasion, c'était son coming out d'ailleurs sur YouTube. Antoine, pas Alex Ramirez, parce qu'il en parle dans son spectacle. Et on a clairement parlé de ça, en fait, de se dire à quel point même l'homosexualité est attribuée au féminin. C'est-à-dire qu'on n'est pas un vrai mec si on est homosexuel. Et ça, clairement, dans les invités qu'on a dans les émissions, ils viennent d'univers complètement différents et il y a toujours ce point en commun là qui est des choses de guerrier protecteur. Alors dit comme ça, ça fait très médiéval, mais en fait on le retrouve encore aujourd'hui, ce truc de d'assumer une famille, de gérer ses émotions. On a tout un épisode sur pleurer. On a Tanguy, qui est quelqu'un de très costaud, barbu, etc., qui lui dit qu'il a beaucoup de mal à pleurer, et au fil de l'émission on se rend compte que bah si, il pleure, et ça veut pas dire qu'il ressent pas des émotions, donc c'est assez intéressant là-dessus. Et en fait on les retrouve vraiment chez une grande palette de mecs.
Qu'est-ce qui vous a le plus dérangé? Parce que tous les sujets dont vous venez de parler, Benjamin, ils sont traités dans votre film, Hélène Milano. Et moi, je me suis demandé, en tant que femme et en tant qu'intervieweuse, qu'est-ce qui vous avait le plus dérangé ou troublé dans la prise de parole de ces jeunes hommes?
En fait, troublé ou dérangé, je savais que j'allais faire un chemin avec eux où évidemment ils allaient me chahuter. Mais c'était pas tellement le problème. Ce qui m'a touchée, par contre, beaucoup, c'est quand ils se sont ouverts et que j'ai pu prendre la mesure à la fois de leur solitude, le fait qu'ils n'avaient pas d'endroit pour parler de ce qui les préoccupe et beaucoup d'amour, et que leurs angoisses, vraiment, en étant au front comme ça d'une société qui va beaucoup les chahuter dans leur parcours, ça m'a beaucoup touchée. Mais sinon, il y a eu des moments où ils m'ont provoquée, mais c'était pour voir si je tenais le coup, quoi. Si j'allais pas m'effondrer.
Non, mais ce que l'on ressent véritablement quand on regarde le film, c'est une construction qui se fait dans le contrôle absolu, ouais. C'est-à-dire ne pas céder ses émotions. Alors, ne pas pleurer, c'est une chose, mais par exemple, ne pas pouvoir dire à une fille qu'on est amoureux parce qu'on se méfie. On sait jamais si la fille va pas se foutre de ma gueule. C'était exactement les termes qu'ils emploient. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas parler, par exemple, même à leurs copains. Ils ne peuvent pas parler à leurs copains. Ils peuvent évoquer des choses en famille, mais avec leurs copains, on ne sait pas. Puisqu'on pourrait les trahir, c'est-à-dire que vous avez eu face à vous des jeunes gens complètement isolés, même dans la tribu de leur des gens avec qui ils sont, en fait.
Mais la relation garçon-fille, elle s'est tendue, ça fait plusieurs années qu'elle s'est tendue et qu'elle continue à se tendre. Donc il y a des amitiés qui sont protégées. Souvent d'ailleurs, quand il y a des garçons qui disent moi je suis je rentre pas dans la compétition masculine. Donc là, c'est un enjeu où il y a des amitiés un peu paisibles qui peuvent se construire. Mais de façon groupale, parfois, ils ont des enjeux comme ça de confrontation garçon-fille. Et du coup, ça oblige tout le monde à être dans des postures très, très, très tendues.
Est-ce qu'il y a eu des réactions, justement, j'imagine qu'ils ont vu tous le film, ouais. Leurs copains aussi?
Non, pas leurs copains encore.
Pas leurs copains? Ils redoutent ça?
Non.
Pas du tout.
Enfin, ils me l'ont pas exprimé, en tout cas.
Et quelles ont été leurs réactions par rapport à ce qu'ils ont vu d'eux-mêmes?
Alors, toujours le fait d'être un peu troublé parce qu'il y a un peu de temps qui s'est passé, que c'est un âge où ils changent vite.
Bien
donc
sûr.
Forcément, ils se regardent, eux, comme adolescents. Ça, c'était assez... plutôt de la fierté. de faire partie de cette histoire. Et il y a trois choses qui m'ont marquée. La première, c'était d'un coup de sentir, parce qu'ils souffrent de solitude, qu'ils font partie aussi d'un corps de jeunes gens qui vivent des choses semblables. Quelque chose qui les soulageait à cet endroit-là. Un autre qui disait, mais en fait, vous avez choisi, je réalise que vous avez choisi des garçons qui ont envie que ça change. Et il a raison. C'est-à-dire que tous les garçons qui sont dans le film, à un moment donné, ont touché la souffrance que c'est aussi pour eux-mêmes, pas seulement dans les histoires de domination, mais pour eux-mêmes, le piège que ça représente. Parce que ça fait des destins, parfois, qui se brisent à cause de ça. Et puis la troisième chose aussi, qui était, mais je me rends compte que nous sommes tous dans une problématique de c'est quoi l'avenir qui nous est réservé.
Victor Thuayon.
Je suis très frappée par la description des amitiés, des relations qu'ils ont les uns avec les autres, parce que là aussi, ça me semble symptomatique de ce qu'est la masculinité. C'est-à-dire qu'elle est à la fois un privilège, mais elle est aussi un piège, dans le sens où ça peut couper de dimensions humaines, psychologiques très importantes. Par exemple, le besoin d'intimité avec les autres, le besoin de relations avec les autres, d'avoir des relations où on peut exprimer des vérités intimes, on peut nouer des relations profondes. Eh bien, ça apparaît être en contradiction avec les exigences de la masculinité. Au cœur de la masculinité, il y a aussi le mythe de « je suis indépendant, je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de me confier, je suis fort tout seul ». Et ça, c'est quelque chose que les garçons apprennent au fur et à mesure, mais du coup, la contrepartie, ça veut dire qu'ils se retrouvent très seuls, ou alors qu'ils font peser toute leur charge émotionnelle et tous leurs besoins émotionnels sur des femmes, en général leurs compagnes. Mais ça ne se limite pas aux classes populaires et aux adolescents. Il y a combien d'hommes, y compris parmi ceux qui nous écoutent maintenant, qui en réalité sont seuls et qui peuvent pas confier leurs pires peines, leurs pires tourments à leurs meilleurs amis. Ils vont aller avec leurs amis boire, peut-être se moquer des filles, parler de leur travail, raconter un peu leurs trucs, mais jamais de ce qui les préoccupe vraiment, jamais de ce qu'ils ressentent en réalité.
Nicolas Bonneau, vous vous retrouvez dans ce portrait, j'ai pas l'impression quand même.
Dans le portrait que vient faire Victoire.
Ouais.
Hein. Si, quand même. Moi, je pense.
C'est vrai.
Bah oui, aujourd'hui.
Vous êtes corseté dans votre solitude de mâle dominant.
Non, j'ai la chance d'être quand même artiste, donc j'ai quand même des espaces scéniques où je peux livrer ma vie.
Je sais.
Donc du coup, non, je me sens pas là-dedans, mais je me rends compte quand même qu'effectivement, on est dans. Moi, en faisant ce spectacle, celui que j'ai fait, en revenant sur mon passé, je me suis rendu compte que j'avais été élevé dans des grosses différences avec ma sœur.
Vous voyez que la famille a bien un rapport. Tout à l'heure, vous essayez de me dire que non, c'était la société de ça.
Mais la famille est vraiment très importante, déterminante,
elle est déterminante dans la façon de construire un enfant.
Justement,
Nicolas Bonneau.
En quoi il y a de la différence avec votre sœur, Nicolas Bonneau?
Eh ben, avec ma sœur, par exemple, moi, je faisais ce que je voulais. Ma sœur devait faire la vaisselle pendant que j'allais devant la télé avec mon père. Moi, j'avais une mobylette. J'étais en pleine campagne.
C'est pas rare.
Et donc,
Non, je sais que c'est pas rare. Justement.
Moi, j'avais la mobilité. Ma sœur avait juste un vélo. De toute façon, elle n'avait pas d'activité extérieure. Moi, j'allais au foot, tout ça. Je ramenais une petite copine à la maison. Ma sœur, non. Si, la seule fois, elle a ramené son petit copain, elle a dû se marier avec lui. Et j'étais pas du tout dans une famille tout à fait autoritaire et horrible. Et d'ailleurs, quand je le raconte à ma mère, elle rigole. Elle ne se rend pas compte.
C'est pour ça que je pose toujours la responsabilité des mères. Je suis désolé.
Ouais. Bah, je pense que la responsabilité était et du père et de la mère, mais c'est avant tout, je pense, pour moi, un contexte social plus global. On reproduit ce qu'il y a eu avant nous.
Victor Taillon ?
Oui, j'insiste sur les pères, parce que ça aussi, on fait comme si l'éducation des enfants ne dépendait, était quelque chose, une charge maternelle et qui dépendait des femmes. Alors effectivement, dans les faits, c'est le cas, puisque je le rappelle, les hommes n'assurent que 28% des tâches domestiques, encore aujourd'hui. Les hommes ont le privilège d'avoir 3h30 de temps libre en plus, en moyenne, par semaine, parce qu'ils n'accomplissent pas un certain nombre de tâches parentales et domestiques.
Peut-être parce que leur mère ne leur a jamais demandé de les prendre en charge.
Ou peut-être parce qu'ils n'ont jamais vu leur père les prendre en charge. Parce que
la femme de leur père n'a jamais demandé au père de les prendre en charge.
Oui, mais en réalité, ça c'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre d'études aussi. Quand vous êtes un garçon, votre premier modèle c'est le père en fait. Vous avez beau avoir une mère qui vous dit il faut respecter les femmes, etc. Vous imitez vos pères et votre père. Vous imitez vos amis, vous imitez vos modèles culturels, vous imitez les gens que vous voyez sur YouTube, etc. D'où l'importance d'avoir des nouveaux modèles culturels de masculinité.
Laurent, je faisais la vaisselle parce que mon père faisait la vaisselle.
C'est parfait.
Voilà.
C'est pour ça que vous travaillez avec moi.
C'est ça.
Je vous ai pas vu souvent faire la vaisselle au bureau. Vous savez, c'est Virginie Rouzet qui fait.
Elle est un imprévu, un doute dans mes déroutes. Elle est ma chose et le machin de mes névroses. Ma bulle d'air comprimé de mes soirées. dans mes retours, elle est mon détour. Elle a dit, c'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchèp tchèp, c'est fini. Elle est la flamme de mes pensées, nouvelle idée. Elle est le radeau qui m'amuse, elle est ma muse. Elle est mon péché principal, mon obsession sentimentale. Mon incendie, mon petit coin de paradis. C'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chip chip, c'est fini. Elle a dit, c'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chip chip, c'est fini.
Chip, c'est fini, la voix couillue d'Arnaud dans le NRV de la programmation Testostérone ce soir de Jean-Baptiste Audibert.
Les Boys Club, ça existe dans les partis politiques, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les barreaux d'avocats.
C'est le fait de se retrouver entre hommes, de se reconnaître au premier coup d'œil, d'aller boire un café ensemble et de rire de la seule femme de l'équipe. C'est ça, les Boys Club.
Le nouveau rendez-vous.
Le principe, c'était la critique acerbe et la dévalorisation de ce que je faisais.
Elle a un beau cul, donc elle n'est pas apte à traiter des sujets dont elle traite. Elle ferait mieux de faire autre chose, donc du porno, puisque c'est ce qu'ils sous-entendaient.
Dans beaucoup d'entreprises, dans le comité de direction, il n'y a pas une seule femme.
Si tu te présentes, c'est fichu. Nous allons perdre ces élections.
Il est vrai que si je suis entouré d'hommes aussi bienveillants, aussi confiants que toi, cela risque d'être très difficile.
Sur France Inter.
Deux ans après l'onde de choc de l'affaire Weinstein, où en est-on de la domination masculine? C'est l'une des questions de notre énervé de ce soir avec nos invités, la documentariste Hélène Milano, le youtubeur Benjamin Vernet, la journaliste Binge Radio Victoire Tuaillon, on vient de l'entendre justement dans le podcast, et le comédien auteur Nicolas Baudot, on vient de l'entendre aussi en écho du seul en scène qui va garder les enfants. Benoît Lagan.
Oui, alors Nicolas Baudot, le monde du cinéma a été sonné après l'onde de choc Weinstein. Vous avez profité, vous, de vos représentations parisiennes et surtout de votre passage en Avignon pour tenter de questionner le monde du théâtre sur la domination masculine dans votre propre corps professionnel. C'était un peu l'omerta, c'est difficile de faire parler les hommes de théâtre sur cette domination masculine, justement, au théâtre.
Je crois, parce que c'est comme c'est la culture, l'art, le théâtre, on a l'impression qu'on a un milieu très ouvert et qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est caché. Et donc, c'est vrai qu'on a profité quelques camarades à Avignon, où on avait des sujets de spectacle semblables. C'est quelque chose qui nous intéressait. On est dans des groupes de mouvements d'égalité homme-femme pour poser cette question-là sur comment devenir allié. Comment devenir allié des femmes qui ont envie de parler et qui ont envie de pouvoir trouver une place dans le théâtre et qui n'est pas cette étoile du silence, qu'elle puisse éclater. Donc on a fait quelques rencontres à Avignon. Il n'y a pas eu grand monde qui est venu. Alors il y avait l'onde de choc autour de Jean-Pierre Barrault aussi, donc on s'est mis dans cette mouvance-là. Il y a eu d'autres tribunes qui sont parues. Voilà, au départ, on avait envie d'être entre hommes, dans un premier temps, pour pouvoir se dire les choses entre nous. Bon, bah alors, on fait quoi? Après, pas mal de filles nous ont dit « on aimerait bien être là aussi ». Donc pour moi, c'est des étapes, c'est pas forcément d'être tout le temps entre hommes. Mais je trouve qu'on n'a pas fait encore ce travail-là entre hommes, de se dire des choses qu'on dira peut-être pas non plus si les femmes sont là. Ça, je pense que ça serait bien qu'on le fasse. Donc là, c'est un peu en construction de trouver les outils, les moyens. Mais il y a déjà eu des paroles de femmes qui ont commencé à témoigner. Donc comment au moins la parole pourrait se libérer?
Parce que cette domination masculine dans le monde du théâtre, ça prend quelle forme précisément? Pour qu'il y ait une omerta, qu'on n'en parle pas?
La plupart des directeurs de théâre sont des directeurs blancs aussi.
Metteurs en scène, grande majorité. Même s'il y a de plus en plus une génération de trentenaires, de jeunes femmes qui apparaissent comme ça dans le théâtre, mais c'est vrai que pendant des années, les metteurs en scène étaient des hommes.
Oui, bien metteur en scène, il fait passer des castings, et puis il faut être dans la séduction pour être embauché dans un spectacle. Comédien, comédienne, on est sur l'apparence, sur la séduction. Donc,
pas payé avec le même tarif.
Oui, bon, bien sûr, les hommes sont
alors
mieux payés.
Qu'on est dans le domaine de la culture. Mmh. Voilà.
Et puis je me rappelle être intervenu justement quand je jouais à Paris au ministère de la Culture sur il y avait une intervention sur l'égalité homme-femme. J'étais assez frappé de voir qu'il y avait beaucoup de femmes qui se disaient en souffrance et beaucoup d'hommes qui se considèrent alliés des femmes qui étaient en souffrance aussi parce que harcelés ou mis à part par leur hiérarchie masculine, alors qui peut être homosexuel aussi, hein, c'est pas forcément la panacée. Puis même la culture, on va dire, peut être un refuge un peu plus clément pour des hommes homosexuels, ce qui est pas le cas dans d'autres domaines. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment encore il y a une loi du silence, oui, forcément, on en a pas parlé. Et puis il y a un truc de oui, c'est quand même un truc de bonhomme, quoi, hein, de faire du théâtre, d'aller sur scène.
Parler entre mecs, c'est le projet. Benjamin Vernet, de la web-série, au départ, ça voulait dire quoi? De pouvoir parler entre mecs, c'est-à-dire de pouvoir parler entre hommes.
Ouais, alors moi j'ai mis un an et demi avant de le faire, je voulais surtout pas parler de masculinité, et j'étais invité dans un podcast qui s'appelle The Boys Club de mademoiselle.com, où là c'est la première fois où j'ai vraiment parlé de mon parcours en tant que mec, ma construction personnelle, et suite à ça j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de meufs, mais aussi de mecs qui m'ont dit, ça nous fait beaucoup de bien. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à pas mal de podcasts comme Les Couilles sur la Table.
De Victoire.
Absolument. Et en creusant, voilà, il y en a plein d'autres, Bonhomme avec JQ, etc. Je me suis rendu compte que c'était que des femmes qui tenaient ces podcasts-là. Et que pour l'instant, les hommes prenaient très peu la responsabilité d'eux-mêmes dire, bon, il y a un truc qui va pas, on parle énormément de féminisme, mais si on remet en question des injonctions faites aux femmes, peut-être que nous aussi, il faut qu'on trouve notre place là-dedans et qu'on remette en question les injonctions qui nous sont faites aussi. Et j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à faire ces vidéos-là, cette émission-là, parce que en fait, j'avais très peur, en remettant en question des injonctions masculines, de remettre d'autres dogmes en place et dire un vrai mec c'est pas ça, mais par contre c'est ça. Donc voilà, donc entre mecs, on est quatre mecs autour d'une table qui discutons juste d'expérience, c'est-à-dire que on dit pas de règles de ce qu'est un homme. Un homme a le droit de pleurer, il a le droit de pas pleurer aussi, il a le droit de faire de la muscu, il a le droit de pas en faire, mais on partage juste des expériences qui nous sont propres.
Alors c'est étrange parce que vous dites que c'est beaucoup de femmes qui font parler les hommes, et en effet autour de la table, Hélène Milano qui a filmé donc 15 lycéens entre 16 et 19 ans, et vous Victoire Tuaillon. Alors, avec ce...
Moi je fais pas parler des hommes justement, non, parce qu'il y a un écueil je trouve qui est celui du pur témoignage, mais qui est pas l'écueil de votre film, mais ça peut être un risque, c'est-à-dire que quand on est en position de domination, on n'est pas forcément le mieux placé pour comprendre les ressorts de cette domination. De même, nous sommes tous blancs autour de cette table et on n'est pas forcément les mieux placés pour parler de blanchité, en fait, et de ce que ça veut dire le racisme dans notre société, parce qu'on bénéficie d'un certain nombre de privilèges dont on n'a pas conscience. Par exemple, comme vous êtes des hommes, vous bénéficiez de privilèges très concrètement dans votre vie de tous les jours. Vous avez beaucoup moins de risques de subir des violences sexuelles. Voilà, c'est quelque chose auquel vous ne pensez pas pendant votre journée. Ça, c'est un privilège masculin. Ça veut dire aussi que vous évoluez dans une ville qui est faite pour vous. L'espace public est fait pour vous, ça veut dire que dans les médias, vous voyez
jusque
des gens du même genre.
Jusque dans l'architecture et l'urbanisme. Ouais, ouais,
jusque dans l'architecture, dans l'urbanisme, et même quand vous étiez petit, en fait, vous jouiez dans des cours de récréation où il y avait un grand terrain de foot dessiné au milieu, et ça veut dire que les petits garçons, dès qu'ils sont tout petits, ils ont le droit, on leur apprend à prendre de la place, en fait.
Je peux vous dire que moi, je préférais jouer à l'élastique avec les filles.
Et que
déjà,
ça coûtait quelque chose, j'imagine.
Ah bah oui.
Voilà. Et donc, c'est pas forcément le témoignage, même si c'est important. Moi, j'invite des chercheurs, des chercheuses, des expertes et des experts qui ont travaillé des années sur un sujet très précis, par exemple, sur les liens entre l'alcool et la virilité. Comment ça se fait que boire beaucoup, ça peut être une manière de performer sa masculinité, par exemple. Ou conduire des voitures, ou la place de la masculinité au travail, mais aussi de sujets beaucoup plus concrets, par exemple, comment avoir des orgasmes prostatiques, par exemple.
Mais si on est, à titre personnel, pas bien placé en tant qu'homme pour parler de la domination masculine, vous, Nicolas Bonneau, comment vous vous retrouvez à parler de votre propre domination masculine en faisant un spectacle sur les femmes politiques, par exemple?
Sans qu'il n'y ait aucune femme dans le spectacle. Voilà. C'est-à-dire que vous parlez donc à la place des femmes.
Oui, à la place des femmes. Ben ou oui, pas. Voilà. Non, je pense pas que je parle à la place, je parle de mon endroit d'homme. Et j'essaie de me laisser traverser par les rencontres que j'ai faites avec les femmes. J'essaie de faire attention vraiment à ça. Non, je parle pas à la place. Après, c'est vrai qu'on me l'a... J'ai aussi des reproches de ce sens-là, hein, des femmes féministes trouvent que voilà, je suis pas placé au bon endroit pour en parler. Et franchement, j'entends. J'ai pas de problème avec ça. Ça me rend un peu triste, mais c'est pas grave. Mais je pense que par contre, c'est bien que des hommes s'en emparent. Mais c'est vrai que ça a été un spectacle qui était long à construire. Je l'ai beaucoup changé parce que justement, je pense que j'avais un peu pris tout ça à la légère. Que je m'étais pas rendu compte de dans quoi je mettais les pieds, et ça a vraiment été long. Même là, quand j'ai joué pendant les 3 mois, j'ai beaucoup changé de choses, parce que ma co-auteure Fanny Chériot me disait: mais retrace toute ta vie d'homme, toutes les relations que t'as eues avec les femmes, fais ce travail là et je le faisais pas, et à force, à un moment donné, c'est revenu un peu comme un boomerang, et il a fallu que je le fasse, et je l'ai pas encore fait totalement d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est une vraie question que je me suis posée. Ouais.
Victor Thuayon ?
Oui, que ça peut être la première démarche pour être un allié des femmes et des féministes, ça peut être d'avoir ce regard introspectif, en fait, sur ok, comment je suis, à quelles activités je m'oblige, à quelles attitudes je m'oblige, comment je suis en relation avec les femmes et avec les autres hommes. C'est une très bonne façon de commencer à être un allié. C'est ce que j'explique dans le livre.
J'ai fait un spectacle sur Mohamed Ali, et c'est marrant parce que personne ne m'a jamais dit: mais
tu n'es pas boxeur et tu n'es pas noir.
Tu n'es pas boxeur et tu n'es pas noir. Personne. Il a fallu que j'aille au Congo, à Kinshasa, pour le jouer, pour qu'on me renvoie ça.
Comme quoi. Juste une question par rapport à l'affaire Weinstein, hein, parce que c'était ça dont on parlait au début. Qu'est-ce qu'elle a libéré ou qu'est-ce qu'elle a coincé dans la construction de la masculinité aujourd'hui, d'après vous? Puisque vous avez travaillé sur le sujet, j'imagine, Victoire.
Oui, et Benjamin. Il y a une des questions qui est récurrente dans l'émission, c'est qu'on se pose la question du sens de la violence, en fait. Comment ça se fait que l'immense majorité des violences qui sont commises dans ce monde, et notamment des violences sexuelles, elles soient commises par des individus de genre masculin? Bon, l'affaire Weinstein et la vague ensuite MeToo et Balance ton porc en France, elle a permis de révéler que, en fait, c'était le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, les viols sont extrêmement banals, extrêmement répandus. Et peut-être ce que ça a changé, c'est qu'on a commencé à écouter les femmes. Mais du coup, on s'est aussi rendu compte qu'en fait, il y avait certainement beaucoup plus de violeurs, d'agresseurs et de harceleurs que ce qu'on pensait. Parce que je le rappelle, 70% des femmes qui ont été violées, elles l'ont été par quelqu'un qu'elles connaissaient. Ça veut dire qu'on connaît tous et toutes une femme victime de violence, mais donc on connaît aussi probablement tous et toutes un homme qui a commis des violences. Et donc, il faut se poser la question là-dessus. Moi, l'émission, elle provoque énormément de prises de conscience. Et par exemple, je reçois de plus en plus des messages d'hommes, puisqu'il y a la moitié à peu près des gens qui écoutent l'émission qui sont des hommes, qui m'expliquent qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient violé, qu'ils avaient harcelé, qu'ils avaient abusé, qu'ils étaient violents avec leur compagne, etc.
Benjamin Vernet.
Ce truc de prise de conscience, moi, ça me parle énormément, parce que moi, on m'a un peu reproché justement de pas inviter d'experts dans Entre Mecs et se dire
on vous reprochera toujours quelque chose.
Oui,
ne vous inquiétez
bien sûr,
pas.
Bien sûr.
Si vous en invitez, on dira c'est toujours les mêmes qu'on entend. Si vous en invitez pas, vous en avez pas.
Complètement. Mais c'est une question qui est légitime en tout cas. Et moi, c'était plus le truc de se dire on va par un média qui est YouTube, on va toucher des gens qui ne se posent pas forcément des questions sur leur masculinité. Pour les mecs, parce que moi pareil, j'ai 50% de mecs et 50% de meufs qui regardent les vidéos. On a sorti 4 épisodes, là on a fait 1 million de vues, ça veut dire qu'on a 500 000 mecs qui ont regardé ça. L'idée, c'était de se dire, parce que la question
500 000 mecs, vous êtes sûr que c'est que des hommes qui vous ont regardé?
Bah non, 500 000 mecs et 500 000
d'accord, ok,
c'était un un savant me calcule.
D'accord.
Et du coup, la question de la légitimité, c'est vraiment posé de se dire, est-ce qu'on est légitime dans ce qu'on va raconter? L'idée, c'était aussi de montrer d'autres masculinités, de se dire que la masculinité qu'on nous a un peu imposée tout le long de notre scolarité, hein, notre développement en tant que mec, peut-être qu'on a d'autres choses aussi, nous, à montrer. Et je me suis rendu compte à quel point, déjà, rien que sur les ados gays, le nombre de retours que j'ai reçus, de dire, ah, c'est cool, parce que nous, on est dans une sale période en ce moment, collège, lycée, et le fait d'avoir ces questionnements-là et d'avoir des témoignages de gens qui sont passés un peu outre, c'est intéressant. Mais c'est aussi des questions, là, le prochain épisode, c'est sur l'alcool, justement. On va avoir sur la violence, on va avoir sur tout ça, mais là, voilà, sur ce truc des émotions, sur ce truc de la drague, on a eu le premier épisode, c'était sur la drague, donc c'est quand même une thématique assez complexe. Ce qui est intéressant, c'est juste de se dire, bah voilà, nous, on est un peu... alors, je peux me la raconter un peu maintenant, Télérama a dit qu'on était des objecteurs de conscience... mais c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire j'essaie de ratisser large entre guillemets en disant on va chercher un nouveau public qui se pose des questions mais qui trouve pas le contenu qu'il veut, et derrière il y a des podcasts comme Les Couilles sur la Table qui vont inviter des experts pour les gens qui veulent aller plus loin et essayer de comprendre ce qui se cache derrière.
Hélène Milano, est-ce que vos lycéens, les 15 lycéens donc de votre film, avaient regardé ou vu, j'imagine, le film précédent sur les filles de la banlieue?
Non.
Et que leur prise de parole était aussi une réaction par rapport à ce qui avait été proposé dans ce film-là?
Non, je voulais pas qu'ils se sentent mis en position de droit de réponse ou que ça conditionne leur rapport à tout le cheminement qu'on allait faire. Et vraiment, je me suis obligée à être complètement dans l'écoute de eux, leur vécu, quelles étaient leurs représentations, quels étaient leurs repères, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire bouger. Je voulais pas être à cette place-là, parce qu'évidemment, je suis une femme, donc forcément, la question s'est posée très en amont. Est-ce que moi, que va-t-il se passer d'aller à la rencontre de ces jeunes garçons? Et en fait, très vite, j'ai été rassurée sur le fait que j'étais un endroit, je créais une poche un peu, enfin une bulle privilégiée, et ils pouvaient vraiment parler d'eux, quoi.
Alors, peut-être que en ces temps de PMA ou de GPA, c'est peut-être pas vraiment vrai, mais normalement, le premier homme, c'est papa. Alani ne s'y trompe pas sur France Inter.
pas, c'est signé Alani, la programmation très familiale de Jean-Baptiste Audibert.
Contre main, 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 contre main.
Ils ont un peu le truc, vous voyez, du dominant. Genre, on n'a pas couché ensemble, mais je l'ai baisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu genre, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi le boss.
France Inter.
C'était un peu aux alentours de 15 ans, enfin 13, 14, 15.
Le nouveau rendez-vous.
Et je sais pas, tu vois, il y avait déjà un... Ah, vous avez cassé, hein. Ah, mais...
Laurent Goumard.
S'ils font ça, c'est pour qu'on dise qu'ils sont devenus hommes. Parce que celui qui l'a pas encore fait, il n'est pas homme.
Les mecs, ils sont là, ils peuvent vous inventer des histoires de fous, mais j'en tarpe un travail. On dirait qu'ils l'ont vraiment fait. Je suis sûr qu'il y en a même qui arrivent à se convaincre qu'ils l'ont fait alors qu'ils l'ont jamais fait.
Un montage qui mixte habilement Entre mecs de Benjamin Vernet et puis le documentaire Les Chabons Ardents d'Hélène Milano. Tous les deux sont nos invités avec la journaliste de Binge Audio, Victoire Tuaillon, et le comédien Nicolas Bonneau. On parle des hommes ce soir, où ils en sont, c'est le sujet du nouveau rendez-vous. Et pendant la chanson, Victoire Tuaillon, vous avez dit une phrase qui est particulièrement révélatrice et vraie de ce qui se passe aujourd'hui. Vous dites « Les hommes ont intérêt au féminisme ».
Oui, moi c'est ce que je crois vraiment, c'est-à-dire que les hommes peuvent être des alliés des féministes, les hommes peuvent être des camarades, à savoir que si on arrive à une société plus égalitaire, bien sûr un certain nombre d'entre eux vont perdre des privilèges. Bah oui, ça va impliquer de plus travailler à la maison, bah oui, ça va impliquer de laisser tomber l'idée qu'on est supérieur aux femmes, qu'ils sont supérieurs aux femmes. Mais combien d'avantages ça donne? Je veux dire, quand on est libéré des injonctions sexistes, viriles, etc., je pense que vraiment ça donne des vies beaucoup plus heureuses, plus épanouissantes, des relations beaucoup plus saines aussi en fait, et aussi une sexualité beaucoup plus épanouissante et intéressante. Là, on entend « je l'ai baisé », etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire de vivre sa sexualité sans arrêt dans la domination? Est-ce que vraiment ça permet la jouissance? Est-ce que vraiment ça permet le plaisir? Je ne suis pas sûre, je ne crois pas en fait.
Hélène Milano, ce qu'ils en sont encore là, hein, vos adolescents que vous avez interviewés, c'est d'être dans la domination même sexuelle. C'est-à-dire, il va falloir baiser, fourrailler ou je ne sais pas trop quoi.
Alors, il y a l'image qu'on donne à voir et la réalité de leurs angoisses. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui construisent leur savoir technique à partir de la pornographie, qui renvoie un certain nombre d'éléments sur le côté performatif, etc. Mais par contre, ils peuvent s'afficher techniquement en sachant plein de choses, mais en fait, en vrai, ils sont très insécurisés sur la relation à l'autre, sur la rencontre avec l'autre. Et c'est vrai que du coup, ils peuvent avoir... Bah, par exemple, William dans le film, qui va d'un côté dire que lui, bah voilà, il a pas encore fait cette expérience-là, mais d'autre part, ça ne le dérange pas devant effectivement tout le monde. C'est à celui qui va trouver le mot le plus violent, le plus. Mais en fait, il y a une espèce d'espace entre les deux, et ça, je voulais donner à entendre cette chose-là.
Mais c'est très violent de ne pas être derrière ces mots, en fait, d'avoir un espace entre ce que l'on dit et ce que l'on est.
Bien sûr, bien sûr.
Nicolas Bonneau.
Oui.
J'adore dire ça.
Non,
comme ça, de lancer un
mot. Je vois très bien que ça vous plaît beaucoup, ce petit saut dans le vide. Mais par rapport à ce qu'on disait, non, à la fin de mon spectacle, voilà, il y a une espèce de progression, il y a une sorte de totem du pouvoir féminin qui prend la parole et effectivement qui dit, t'en as pas marre, toi, d'être un homme, de devoir être fort toujours,
assuré,
obéir au grand-papa, faire la guerre, faire l'usine, faire le beau derrière ton bureau, et qu'effectivement, c'est pas toi qui vas libérer les femmes, c'est les femmes qui vont te libérer. Je pense que moi j'y crois vraiment à ça, que ouf, putain, ça fait du bien de pas être oui, il faut partager les tâches ménagères, c'est chiant. On est d'accord.
C'est chiant pour les femmes, c'est chiant pour les hommes. Il y a pas de raison, quoi.
Mais en même temps, tout le reste, tout le champ que ça peut ouvrir, eh ben on voilà, et cette injonction là de qu'il soit plus au-dessus de la tête, je trouve que ça peut être une vraie ouverture. Et moi je sais que ce spectacle là forcément, heureusement, me transforme et me change dans ma vie.
Victoire Tuaillon, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment y arriver? Parce qu'il y a un côté positif quand même dans votre travail, vous essayez de trouver des solutions.
Notamment à la fin, je propose plein de solutions.
Ah bah plein, voilà, c'est un kit pour pouvoir vivre.
Non mais ça, pour être des meilleurs alliés, pour réenvisager la sexualité, tout ça, c'est possible.
Parce que c'est Yvan Jablonka qui parle d'une utopie, quand il parle de la façon de changer les relations.
Bon, alors déjà, je pense que c'est pas qu'une question de comportement individuel en fait, ça implique aussi de profonds bouleversements politiques et de politiques publiques, etc. Moi je suis convaincue. Par exemple, le jour où il y a un congé paternité ou un congé pour le deuxième parent qui est rémunéré, qui est obligatoire et qui est d'égale longueur à celui du congé maternité, bah, ça provoque des effets très concrets, en fait, dans la vie réelle. Le jour où on aura enfin des politiques publiques qui s'attaqueront aux violences faites aux femmes et donc qui s'attaqueront aussi à comment est-ce qu'on empêche des hommes de commettre des violences, qu'est-ce qu'on fait des violeurs, des pédophiles, des harceleurs, etc. Bah, il y a des choses concrètes qui vont changer, mais ça, c'est des choses collectives. Et puis après, il y a le rôle de la culture aussi, de ce qu'on montre, des nouveaux modèles, que ce soit sur YouTube, au au théâtre, au cinéma, etc. Mais moi, je suis personnellement, après, je suis journaliste, je suis pas militante, donc je suis très optimiste et très pessimiste à la fois. Je pense qu'il y a quand même un désir que les choses changent et qu'on aille vers une société qui soit plus égalitaire et des relations plus heureuses.
À la fin de votre film, après l'avoir tourné, Milano, vous êtes plus confiante dans ce que, dans la façon dont les hommes vont construire leur masculinité ?
Oui, en fait, j'avais bien l'intuition qu'on ne peut pas décréter l'égalité. C'est quelque chose qui se construit. Et ça se construit notamment en allant interroger l'autre. Non pas s'interroger sur l'autre, mais interroger l'autre. C'est-à-dire vraiment aller à la rencontre de l'autre en sachant d'où il parle. Pourquoi ces représentations sont celles qu'elles sont. Et là où moi, ce que j'ai senti, c'est que de mettre à jour, de dévoiler la fragilité dans laquelle ils sont et d'avouer que cette fragilité peut être une force pour peu qu'ils la prennent en charge eux-mêmes, leur vibration, leur fragilité, etc. Et ça, j'ai l'impression que vraiment, il y a quelque chose qui se passe qui a ouvert toute la place de la créativité, parce qu'effectivement, s'il y en a un qui a envie d'être fort, pas fort, etc., le problème, c'est pas de mettre les gens dans les cases. Par contre, est-ce qu'on a accès à sa liberté de construire l'homme qu'on a envie de devenir? Et quel type de relation on a envie d'offrir à l'autre?
Eh bien, ça sera le mot de la fin pour tout le monde. Merci à vous quatre. Vous restez avec nous tout de suite. On va partir en live avec Marion Guilbeault.
Nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion Guilbeault qui vient d'arriver avec les musiciens. Un petit peu essoufflé, Marion ?
Non. Un tout petit peu, Laurent.
Tout va bien.
Alors après Juliette Armanet, Clara Luciani, Angèle, la French Pop s'agrandit et s'encanaille avec l'arrivée de Marie-Flore. Alors elle voulait, paraît-il au début, travailler dans la politique. Et puis finalement, elle a fait du stylisme pour Kitsune. Mais son vrai médium à Marie-Flore, c'est la musique. Elle est chanteuse, elle est multi-instrumentiste. Elle s'est fait la voix sur un répertoire anglo-saxon, option Velvet, Leonard Cohen, avec un premier album, By the Dozen, c'était en 2014. À l'époque, elle traînait ses cordes vocales graves en Angleterre, aux côtés de Baxter Dury et de Pete Doherty. Et puis, il y a eu un twist, il y a eu une bascule, il y a eu une révélation, en tout cas une mue artistique au contact des sons urbains et des chaos de sa vie amoureuse. Et voilà, c'est ça qui a décidé Marie-Flore à lâcher, et à se lâcher, surtout en français, sur des chansons auto-fictionnelles avec une écriture sensuelle, trash et un parler chanté plus répandu en général chez les rappeurs que chez ses consoeurs. Braquage, c'est le titre de son nouvel album. C'est un disque monomaniaque. Marie-Flore ne chante que l'amour, qu'il soit déçu, transi ou fou. C'est un disque écrit suite à une rupture amoureuse, mais c'est pas vraiment le genre pauvre petite chose abandonnée.
Ah, parce pas
que,
l'air. Hein.
Non, pas vraiment. Parce que même s'il y a du romantisme chez cette update de Damso ou de PNL, il y a aussi dans son album une mise en scène plutôt culottée de la sexualité qu'on entend peu dans les textes féminins aujourd'hui. Marie-Flore, bonsoir. Je me demandais, est-ce que c'était un parti pris, une provocation ?
Alors, je crois pas que ça soit trop calculé, mais effectivement, après, je suis assez fière du coup de la tournure, compris les événements sur ces paroles, ouais, et vous, sur le ton.
Vous vouliez être quel type de femme politique ?
Oh, plutôt humaniste.
Ah, très bien.
Moi, je la voyais plutôt dictateur.
Ouais, moi aussi, je me suis dit, ah oui,
ça,
oui, un côté...
T'as pas être commode.
Ouais, ouais. Non, un côté Thatcher, hein, très Thatcher.
Oh là là. Eh ben, écoute, on va écouter Tout ou Rien. C'est extrait de son premier album, Braquage. Ça vient de sortir. Marie-Flore est en live dans le NRV.
Tu sens bon? Mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin. Je m'allume une blonde. Tout s'éteint dans tes yeux bleus clins. De façon sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi deux secondes. Sentir ton cou avant que ça brille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi deux secondes. Juste deux secondes. Tu peux m'écrire tous les mots, tous les mots que t'as jamais su me dire. Mais toi, ferme-la, tais-toi, toi tu sais pas quel point ce sera, quel point ce sera tout rien cette fois. Moi, bouge de là, tais-toi, toi tu sais pas quel point ce sera, quel point ce sera tout rien cette fois. Bien sûr, demain. Tu reviendras peut-être à tel terrain, mais y a pas de mi-temps.
c'est juste la fin, lâche-moi la main. On verra bien si le sol se dérobe ou si jamais il te retient. Nous deux, c'était rien, non. C'était juste assez pour se faire plus de mal que de bien. Nous deux, c'était rien. Nous deux, c'était rien. Toi, ferme-la, tais-toi, toi, tu sais pas que point, que point ce sera, que point ce sera tout rien cette fois. Donc bouge de là, tais-toi, toi, tu sais pas que point ce sera, que point ce sera tout rien cette fois, tout rien cette fois. Depuis que t'es parti, t'es partout, c'est à se rendre fou. J'suis comme un piéton qui suicide, qui traverse la rue hors des clous, j'encaisse tes coups. Y'a comme un crissement sous mon sein, sur mes genoux, je veux ça détendre, j'encaisse tes coups. J'encaisse tes coups. Toi, ferme-la, tais-toi, toi, tu sais pas.
Marie-Flore, elle était accompagnée par Léo au clavier. Elle va être en concert à Saint-Lô le 7 novembre. Elle jouera aussi à Savigny, à Montreuil, à Nantes, à Montpellier. À Paris, elle va faire 3 soirées aux Étoiles. Ce sera le 25 novembre, les 2 et 9 décembre. La prise de son ce soir était assurée par les très mal Alexandre Chenet et Serge Viguier.
Ouais,
merci, messieurs. Merci, messieurs. Et merci beaucoup, Marie-Flore, d'être passée par le nouveau
merci
rendez-vous.
Merci à vous. Merci à nos invités. Hélène Milano, Les Charbons Ardents est sorti en salle aujourd'hui. Le prochain film, ça sera quoi? Il y a eu les filles, il y a eu les garçons. Maintenant?
C'est la rencontre des deux. Sur une fiction.
Sur une fiction. Mmh, et le titre sera toujours floral?
Non, ça sera Kaina.
D'accord. Prochain épisode de Entre Mecs pour vous, Benjamin Vernet?
Novembre-décembre, il y en a un par semaine.
Et ça va parler de quoi? Vous avez déjà les prochains thèmes?
Oui, il va y avoir l'alcool, la violence, la rupture amoureuse aussi.
Très bien, les couilles sur la table?
Alors les couilles sur la table, le podcast continue. Là, il y a 4 épisodes à écouter avec Virginie Despentes. Et puis surtout, le livre sort en librairie le 30 octobre. Et je pense que ça fait un bon cadeau de Noël à offrir à des mecs qui ont envie de les allier.
Parfait. C'est sa première et proche.
Voilà, attends, ça changera des chaussettes et des bouteilles de vin.
Très bien. Pas du tout cliché, hein.
Souvent, c'est ça. Là,
des
on
chaussettes,
peut leur offrir.
Quelle famille, ouais. Et Nicolas Bonneau, vous?
Très bons épisodes avec Virginie Despentes. Eh ben, qui va garder les enfants, c'est en tournée cette saison et
Amel,
la saison prochaine.
Chez Ségolène Royal, vous allez.
Chez Ségolène. Ah, mais qui vient plus dans le Poitou-Charentes, hein, vous savez.
Oui, bah non.
On est fâchés.
Et, ça sera à Mel le 29 novembre. À partir de 2020, ça reprend à Loudun le 12 janvier, à Cognac le 11 février.
Oui, et puis un peu partout et la saison prochaine aussi. Puis je prépare un prochain spectacle sur le roman national français, le récit du roman national français. Vaste sujet.
Avec des grands hommes?
Avec beaucoup de grands hommes, voilà, et les
quelques
femmes,
femmes
faut vraiment
quand
les
même.
Chercher.
Ouais, mais non,
à part Jeanne d'Arc.
Vous savez, on peut en trouver. On cherche, on trouve.
Ouais.
Ouais, je fais confiance. Merci à vous quatre.
Merci.
Merci.
C'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV la suite pour plus de France Inter. Demain, au programme du NRV, ce sera ça.
Aujourd'hui, nous essayons de construire avec nos forces, nos moyens, une nouvelle Tunisie.
Demain, direction la Tunisie. Quel avenir pour le pays au lendemain des élections? Eh bien, on vous attend sur le sujet. Vous pouvez laisser des messages, des questions, vos analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. Et en live, Marion, demain?
La révélation électronique. électropop qui vient de Belgique. Celle-là, elle s'appelle Charlotte à digérer.
Et bien voilà, le énervé, c'est Juliette Medevielle à la réalisation, programmation et préparation, Virginie Rosic, Clémence Diligent et Benoît Lagarde.
Rendez-vous. Tu vas donner rendez-vous demain.